Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à l'antenne notre spécialiste géopolitique, le géopolitologue que l'on voit souvent sur les chaînes de télévision d'information, Dominique Moisy, professeur, ancien directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et conseiller actuellement de l'IFRI et de la Fondation Montaigne. Donc, bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, avec vous aujourd'hui, compte tenu de l'actualité et de votre connaissance des États-Unis, on veut se poser une première question. Donald Trump, en poste depuis maintenant bientôt 9 mois, pour son second mandat, est arrivé en soutenant complètement la position israélienne et avait même fait des déclarations quant à la guerre de Gaza, on s'en souvient, où il préconisait de déplacer la population pour y construire une riviera et des grands hôtels. Et puis voilà que tout subitement, depuis une semaine, et hier soir officiellement, il en a fait une déclaration avec le Premier ministre Netanyahou, il nous propose un plan en 20 points, un plan de paix, qui pourrait être aujourd'hui le plan de la gauche israélienne, quelque part. Alors, et ce plan, j'en fais un rapide résumé pour nos auditeurs. Il prévoit que d'abord, dès que l'accord sera signé, dans les 72 heures, tous les otages seront libérés, vivants ou décédés. Qu'en contrepartie, 250 prisonniers palestiniens qui sont condamnés à perpétuité seraient libérés, ainsi qu'un certain nombre de Gazaouis qui sont détenus depuis le 7 octobre. L'aide humanitaire sera déversée sur la bande de Gaza. Le Hamas ne s'occupera plus de la gestion de la bande de Gaza. On mettra en place un comité composé de différentes composantes et qui sera supervisé par un comité de la paix dont Donald Trump lui-même assurera la présidence. Voilà. Donc, et enfin, surtout, il prévoit dans ce cadre de ce plan que ça pourrait être une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien. Alors, comment comprendre ce revirement de Donald Trump ? On peut aussi aborder la question de sa position vis-à-vis de l'Ukraine et la guerre qui se poursuit depuis 3 ans, où là aussi, il a fait des déclarations fort étonnantes.
Alors, c'est un peu compliqué et c'est peut-être trop tôt pour saisir toutes les subtilités et la signification de ce plan. Maintenant, vous avez été à l'essentiel. Il y a une différence majeure entre le comportement de Trump à l'égard de la Russie de Poutine et à l'égard d'Israël de Netanyahou. Même si Trump a laissé entendre sa mauvaise humeur à l'égard de la Russie au cours des derniers jours, des dernières semaines, il n'a rien fait qui puisse, dans la réalité, heurter les intérêts de Moscou. Il laisse Kiev, quand même, relativement seul par rapport à Moscou, quelles que soient les déclarations qu'il a pu faire. Dans le cas d'Israël et de Netanyahou, c'est un peu l'inverse. Le plan qu'il a proposé suppose quand même des sacrifices de la part de Netanyahou, et on a vu tout de suite la réaction de ministres comme Smotrich ou Ben-Gvir disant que c'était un très mauvais plan que Netanyahou avait accepté. Alors pourquoi cette différence entre le traitement de la Russie et le traitement d'Israël? Je crois que Donald Trump a de nombreux intérêts diplomatiques, stratégiques, peut-être aussi économiques et financiers, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabe uni, et il entend d'une certaine manière satisfaire ces pays, alors qu'ils se fichent, pardonnez-moi l'expression, de la position des pays européens qui peuvent se sentir trahis par lui dans la guerre avec l'Ukraine. Donc c'est une première interprétation. La relation de Donald Trump avec les pays du Golfe, avec de nombreux dirigeants arabes et musulmans, est plus importante pour lui que ne peut l'être sa relation avec ses alliés traditionnels européens.
Oui, mais ça l'a amené à changer sa position, si je parle du Moyen-Orient, complètement, à 180 degrés.
Oui. Alors, il y a une raison, peut-être, que mettent en avant un certain nombre de commentateurs. C'est une raison de politique intérieure américaine. Les Américains ne s'intéressent pas beaucoup à l'Ukraine. Ils s'intéressent beaucoup au Moyen-Orient. Et Donald Trump a pu intégrer le fait que l'opinion publique américaine, au fil des mois, devenait de plus en plus réticente à l'égard de la politique israélienne. Il y a eu un changement radical depuis le 7 octobre, depuis le durcissement de la guerre de Gaza, dans le regard que les Américains portent sur Israël. Ils étaient les premiers soutiens d'Israël avant le 7 octobre. Ils ont pris leur distance depuis la guerre de Gaza.
Effectivement, et on voit cette évolution dans les deux parties. Alors, bon, les démocrates, on le savait, mais même au sein des républicains, et surtout, surtout parmi les jeunes. Enfin, je crois qu'il y a des sondages qui montrent tous les, disons, la tranche d'âge 18, 40, 45 ans, je ne sais pas à peu près les limites, est beaucoup plus, disons, critique d'Israël que la tranche d'âge supérieure.
Oui, essentiellement, ce qu'on appelle la génération Z, les Zoomers, sont beaucoup plus critiques d'Israël, et ce sont les Boomers, ma génération, qui gardent un soutien et une sympathie à l'égard de l'État hébreu.
Ok. Alors, quels sont ces moyens pour imposer ces vues? Enfin, si le Hamas, aujourd'hui, je redis pour nos auditeurs, le Premier ministre israélien a accepté ce plan, encore faut-il qu'il le fasse soumettre et voter par la Knesset, mais on sait d'ores et déjà qu'il aura, même s'il y a des désistements au sein de sa coalition, il sera soutenu par l'opposition. Par contre, on n'a pas encore la réponse officielle du Hamas. Alors, si c'était le cas, si le Hamas accepte cet accord, quels sont les moyens de Trump pour forcer sa mise en place, quoi?
Alors, il y a la première question, est-ce que le Hamas va accepter? Et là, il y a deux écoles de pensée, deux scénarios possibles. Le premier, le plus positif, c'est que le Hamas ne peut pas, dans la situation où il se trouve, décimé militairement, affaibli comme il ne l'a jamais été, dire non à ces pays qui l'ont soutenu et qui continuent de le soutenir. Dire non en même temps au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, à la Turquie, des frères musulmans, c'est très compliqué pour le Qatar. À l'inverse, il y a ceux qui disent le nouveau leadership militaire du Hamas à Gaza est encore plus dur que le précédent. Ils veulent mourir en martyr et ils n'ont aucune raison de céder aux pressions américaines et aux pressions arabo musulmane et il se fiche complètement du sort de la population civile palestinienne à Gaza. Donc voilà, il y a c'est difficile et les interrogations que l'on entend aujourd'hui en provenance de Gaza, c'est-à-dire les premiers sondages implicites, on demande aux gens alors comment ça va se passer, montrent que il y a un espoir très mesuré, il y a une crainte que en fait le Hamas dise oui mais et que le mais l'emporte rapidement sur le oui.
Ok, d'autant plus qu'il y a des ambiguïtés dans ce plan. Netanyahou a déjà fait des déclarations qu'il n'y aurait pas d'État palestinien malgré ce plan. Voilà, donc pour maintenir sa coalition en place. Donc là aussi, on verra par la suite. Alors, puisqu'on parle de Trump, et bon, vous avez évoqué un peu l'Ukraine, est-ce que malgré tout... même si son évolution, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de Poutine n'est pas aussi marquée, est-ce que là aussi il n'est pas excédé par Poutine, le fait qu'il n'ait pas respecté ses engagements, qu'il ait poursuivi et augmenté les bombardements des populations civiles, est-ce que ça ne peut pas le conduire, Trump, à durcir un peu plus et donner l'autorisation d'utiliser des armes de destruction massive, comme on dit, pour atteindre des cibles au sein de la Russie?
Alors, au moment où nous parlons, il y a une grande, unique rencontre du personnel militaire américain, une centaine et plus de généraux et d'amiraux sont réunis à Washington autour du ministre de la Défense, Peter Hegseth, et Donald Trump va bientôt s'adresser à eux. Le message de Peter Hegseth et d'une grande fermeté, presque d'une certaine violence. Il invite l'Amérique à être plus forte que jamais, à préparer la guerre, à se préparer à la guerre, parce que c'est la seule condition de préserver la paix. Donc ce message de Donald Trump, la paix à travers la force. Aujourd'hui, il n'a jamais mis autant l'accent sur la force. Alors, est-ce que ce message va aller au-delà des mots et se traduire dans les actes à l'égard de la Russie? C'est une des grandes interrogations des jours et des semaines qui vont venir. Pour le moment, l'Amérique parle fort et agit discrètement à l'égard de la Russie. Est-ce que cet équilibre va se renverser? Je ne sais pas. J'aurais dit jusqu'à il y a quelques jours ou quelques semaines que je ne pensais pas que cela se produirait. Aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Il y a effectivement dans la personnalité de Donald Trump quelque chose d'extraordinairement narcissique. Il se sent personnellement trahi, trompé par Poutine, à qui il faisait confiance. Il croyait que on pouvait parler de sympathie, de relations personnelles entre leaders. Il s'aperçoit que Poutine n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts.
Et pour conclure, on sait que Donald Trump souhaiterait avoir cette année le prix Nobel de la paix, qui doit être, je pense, décidé dans les prochaines semaines, si ce n'est jours. Et là aussi, ça présente une échéance à très court terme. Alors si effectivement le plan de paix au Moyen-Orient, en tout cas, est accepté, c'est un gage pour lui pour obtenir ce plan, ce prix.
Alors je crois qu'il met davantage l'accent sur la paix au Moyen-Orient que la paix en Europe pour obtenir le prix Nobel de la paix. Maintenant, Bon, il s'est passé quelque chose d'important hier, je dirais même de très important. Netanyahou a accepté le plan Trump. Ça n'était pas évident, ça traduit une évolution de sa part, mais on est loin de la paix. Entre le plan de paix de Donald Trump et la paix sur le terrain, il peut se passer plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, et les délais risquent d'être un peu courts pour l'aspirant au prix Nobel de la paix.
Bon, espérons en tout cas qu'on aboutisse à un cessez-le-feu déjà, avec une libération des otages. Trump avait réussi à l'obtenir en mois de janvier dernier,
oui.
et Netanyahou l'avait accepté. D'ailleurs, dans les mêmes conditions, que c'était un plan que Biden avait préparé quelques mois plus tôt, et Netanyahou l'avait refusé à Biden, il avait accepté à Trump. Espérons en tout cas, pour les otages et pour la région, que ça se passe ainsi. Merci Dominique.
Absolument.
Merci Dominique de nous avoir éclairé sur cette évolution des États-Unis et de Donald Trump. Et à dans 15 jours pour nos auditeurs.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.